Laudetur Jesus Christus.
Le coronavirus circule en France de manière préoccupante. Plus de 10 500 cas ont été recensés hier, un record depuis le mois de mai. La France, où le ministre de la Santé a annoncé hier de nouvelles mesures de restriction avec une priorité, une approche région par région. Nous entendrons notre correspondante au début de ce journal. La Pologne, très attentive à la crise politique qui touche son voisin biélorusse. Varsovie a proposé hier la création d'un fonds d'1 milliard d'euros pour venir en aide au pays. Nous entendrons notre correspondant à Varsovie. À la une de ce journal également, la coopération militaire franco-allemande qui se renforce. Nous entendrons aussi le nonce apostolique à Damas, le cardinal Mario Zenari, qui exhorte à ne pas oublier les Syriens, un peuple qui souffre toujours plus de 10 ans après le début de la guerre. Et puis dans notre dossier direction, le Liban ce matin qui peine à se relever. 300 000 personnes ont été laissées sans abri après la catastrophe du port de Beyrouth. Gros plan sur les besoins immenses du pays avec Aloysius John, le secrétaire général de Caritas Internationalis. Il vient de passer quelques jours dans le pays du Cèdre.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Devant la recrudescence des infections au Covid-19 en France, le gouvernement ne parle pas de deuxième vague, mais reconnaît que l'épidémie est à nouveau très active sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a déclaré hier soir le ministre français de la Santé, Olivier Véran. La France, où plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés hier, c'est un nouveau record depuis la fin du confinement au mois de mai. Mais le ministre de la Santé maintient et défend la stratégie gouvernementale, une approche dans le cadre de laquelle les nouvelles mesures de restriction sont prises au niveau local. Marie-Christine Bonzon.
Plus de la moitié des départements français ont désormais dépassé le seuil d'alerte établi par le gouvernement, soit 50 cas pour 100 000 habitants. Mais le taux d'incidence du virus n'est pas le seul facteur inquiétant. Tous les indicateurs montrent une progression de l'épidémie, déclare ainsi le ministre de la Santé. Outre les 10 593 nouveaux cas détectés entre mercredi et jeudi, tous les autres indicateurs sont en effet en hausse. Foyers de contagion, taux de positivité des tests, nouvelles hospitalisations, admissions en réanimation. Et puis, 50 personnes sont mortes du Covid en France entre mercredi et jeudi. Olivier Véran annonce que les préfets des régions de Lyon et de Nice vont renforcer les mesures de restriction d'ici demain. D'autres mesures pourraient être prises toujours au niveau local, en Guadeloupe, à Marseille, à Paris, Lille, Toulouse, Rennes et Dijon. Devant les longs délais d'attente des résultats des tests de dépistage, le ministre reconnaît par ailleurs ce qu'il appelle un embouteillage dans les laboratoires. Pour y remédier, M. Véran annonce que 20 nouveaux centres de prélèvement seront ouverts dans la région parisienne et que les tests seront administrés en priorité aux personnes munies d'une prescription médicale, aux personnes symptomatiques, au personnel soignant, aux aides à domicile et aux cas contacts. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Et hier, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiétait du taux alarmant de circulation du virus en Europe en particulier. L'agence onusienne qui s'inquiète également du raccourcissement du délai de quarantaine dans certains pays, comme en France où il est passé à 7 jours ou en Grande-Bretagne à 10 jours et plaide toujours pour 2 semaines d'isolement. L'Espagne, elle aussi, est l'un des pays d'Europe où la pandémie rebondit le plus. La région de Madrid est préoccupée et demande de l'aide au gouvernement central. De nouvelles mesures de restriction devraient être annoncées ce vendredi en Espagne. Les quartiers les plus pauvres de la capitale espagnole sont parmi les plus touchés. En Grande-Bretagne, la situation est également difficile. Dans le nord-est du pays, de nouvelles restrictions ont été mises en place. Selon Boris Johnson, il s'agit de sauver Noël. Un couvre-feu pour les pubs du pays est même envisagé. L'Europe, qui n'est pas la seule à compter un rebond du virus, Israël a annoncé un reconfinement de 3 semaines face à un rebond de l'épidémie. Une période qui coïncide avec le début des fêtes juives. La situation politique en Biélorussie, suivie de très près par son voisin polonais, après que le Parlement européen a rejeté mercredi les résultats des élections présidentielles en Biélorussie, appelant à des nouvelles sanctions contre son président Alexandre Loukachenko. Varsovie a proposé hier la création d'un fonds de stabilisation pour venir en aide à Minsk. Les détails par notre correspondant à Varsovie, Jasmin Lemieux-Lefebvre.
En lançant l'idée avec son homologue lituanien à Vilnius, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki n'a pas hésité à parler de la nécessité d'un plan Marshall pour reconstruire le Bélarus, une allusion à l'aide économique américaine suivant la Seconde Guerre mondiale. La somme est colossale, au minimum 1 milliard d'euros auquel contribueraient l'Europe et le Fonds monétaire international. Ce soutien financier serait bien sûr conditionnel à de nouvelles élections libres. Cet appel semble une réponse à l'offre russe d'un prêt équivalent à 1,5 milliard d'euros pour son allié Loukachenko. Soutenu par les autres membres du Visegrad, qui comptent également la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, la suggestion de la Pologne tombait un 17 septembre, anniversaire de l'invasion russe de son territoire en 1939. Alors que plusieurs opposants fuient le pays, le Bélarus annonçait plus tard en journée son intention de fermer ses frontières avec la Pologne et la Lituanie et d'augmenter ses contrôles à la frontière de l'Ukraine. Jasmin Lemieux-Lefebvre pour Radio Vatican à Varsovie.
Les proches d'Alexeï Navalny sont convaincus de l'empoisonnement de l'opposant russe. Ils ont relevé des traces de l'agent innervant sur une bouteille d'eau en plastique et récupéré dans la chambre d'hôtel où il avait séjourné. L'avocat, homme politique et militant anticorruption de 44 ans, a fait un malaise le 20 août dernier durant un vol le ramenant à Moscou de la ville de Sibérie de Tomsk, où il était venu soutenir des candidats aux élections municipales et tourner une enquête sur la corruption des élites locales. Moscou se défend d'avoir tout stock d'agents innervants, de poison. La France et l'Allemagne veulent avancer sur le dossier de l'Europe de la défense. Hier, les deux ministres en charge de ce dossier, en France et en Allemagne, se sont retrouvés dans leurs deux pays respectifs. Florence Parly, Annegret Kramp, Karen Bauer ont mis en avant les avancées en la matière. À Berlin, les précisions de Delphine Herbollier.
En Bavière, c'est sur le site du constructeur Airbus que se sont retrouvés Florence Parly et Annegret Kramp-Karrenbauer. Au menu de cette rencontre, le futur système aérien de combat franco-allemand. Paris et Berlin ont eu du mal à se mettre d'accord, mais les deux capitales ont finalement signé un accord en février dernier. Ce projet commun, avec la participation de l'Espagne, permettra de remplacer d'ici 20 ans les actuels avions de combat Rafale et l'Eurofighter. Ce projet n'en est encore qu'au stade de la recherche, mais il pourrait prendre de la vitesse l'an prochain. Un peu plus tôt dans la journée, les deux ministres de la Défense s'étaient retrouvés en Normandie pour poser la première pierre d'un bâtiment unique dans l'histoire de la coopération franco-allemande. C'est ici, à Évreux, que sera accueilli un escadron aérien franco-allemand. Au total, 260 militaires et mécaniciens des deux pays s'y entraîneront avec 10 avions C-130J, propriété des deux pays. Cet escadron sera dirigé par un Français, épaulé par un Allemand et il pourra participer à des opérations extérieures. Les deux ministres ont salué un tournant et une avancée concrète pour l'Europe de la défense. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
L'État islamique a revendiqué l'assassinat le 9 août dernier de 8 personnes au Niger, parmi lesquelles 6 humanitaires français. Ils avaient été tués en compagnie de leur chauffeur et de leur guide nigérien par des hommes armés à moto alors qu'ils visitaient une réserve de girafes à 60 km au sud-est de la capitale Niamey, une zone à l'époque qui n'était pas classée rouge. Un massacre qui avait provoqué une très vive émotion en France, le Niger où les attaques djihadistes sont en recrudescence depuis plusieurs mois. En Bolivie, l'annonce surprise de la présidente intérimaire Jeanine Añez, elle renonce à se présenter à la prochaine élection présidentielle du 18 octobre. Un retrait stratégique pour faire barrage à la gauche et aux partisans de l'ancien président Evo Morales, a-t-elle expliqué. Son parti, le mouvement vers le socialisme, est largement en tête des intentions de vote avec 40%, tandis que Jeanine Añez ne recueille que 10% des intentions. La présidente intérimaire a appelé à l'unité contre un retour de la dictature. La situation des Syriens empire dans une indifférence de plus en plus grande de la communauté internationale. Tel est le cri d'alarme lancé par le cardinal Mario Zenari, le nonce apostolique à Damas. De passage à Rome ces derniers jours où il a rencontré le pape François, le cardinal Zenari souhaite donner une voix à ceux qui n'en ont pas et revient sur la grande pauvreté de millions de Syriens. N'oublions pas ces gens, ces Syriens, nous rappelle le représentant du Saint-Siège en Syrie.
Je voudrais remarquer que dans les discours fait au corps diplomatique les mois de janvier dernier. En parlant de la Syrie, le Saint-Père disait « La Syrie risque d'être oubliée, Toutes ces souffrances après 10 ans de guerre, il y a l'oubli qui risque de couvrir la Syrie. » Et j'ai constaté, oui, on parle toujours moins de la Syrie, alors il faut en parler en racontant la souffrance de ces gens et surtout faites en sorte que la solidarité soit toujours présente, la solidarité de nous les chrétiens. Nous avons nos projets comme chrétiens, comme église, nous comme Saint-Siège. Notre stratégie est d'être avec la souffrance des gens. Et il faut reconstruire les hôpitaux qui ont été détruits. Il y a une école sur trois hors de service. Il y a plus de 2 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il faut se mettre du côté des gens. Et comme église, comme Saint-Siège, le pape, nous n'avons pas d'intérêt économique, d'intérêt militaire. Notre intérêt sont les personnes qui souffrent.
Le cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, interrogé par Massimiliano Menichetti. Plus de 500 000 morts et 12 millions de déplacés. Tel est le tragique bilan de la guerre syrienne, selon les chiffres des Nations Unies. Le cardinal Zenari, que vous pouvez retrouver plus en détail sur notre site vaticannews.va. Non loin de la Syrie, le Liban est toujours dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Le premier ministre désigné, Mustapha Adib, a annoncé hier la prolongation des consultations au terme d'une rencontre avec le président Michel Aoun. Le pays du Cèdre qui s'enfonce chaque jour davantage dans une crise à la fois politique, sociale et économique. Près d'un mois et demi après les explosions qui ont ravagé le port de Beyrouth, 300 000 personnes sont toujours sans domicile dans la capitale libanaise. Pour soutenir ces populations de plus en plus vulnérables, le secrétaire général de Caritas Internationalis vient d'effectuer une visite sur place. Un geste de solidarité, mais ce déplacement a également pour objectif d'évaluer les besoins et de mieux coordonner l'aide locale. Aloysius John décrit une situation dramatique et dénonce l'indifférence de la communauté internationale.
J'ai visité le terrain et je me suis rendu compte que c'était quelque chose presque égal à le tsunami en 2004. Tout est essoufflé. Environ 300 000 personnes sont encore à la rue, sans aucune possibilité de pouvoir intégrer leur habitat. J'ai visité des familles et la question que la plupart des gens posent, c'est qu'est-ce que je vais faire? L'hiver arrive et dans 2 mois, comment est-ce que je vais pouvoir vivre? Avec la crise économique, les gens ils n'ont plus le moyen d'acheter de quoi manger. Et ils ont aussi arrêté de travailler parce que à cause de l'explosion. Ils ont fermé le bureau. Donc, il n'y a plus de salaire. À l'heure actuelle, il y a 4 crises. Il y a la crise politique, crise économique. Après, il y a cette explosion. Et il y a le Covid-19. 4 crises s'emboîtent, l'État est absent, et la classe moyenne est en train de s'appauvrir. Même les riches sont en train de devenir pauvres aujourd'hui.
Donc des besoins énormes, besoin de reconstruire, reconstruire les maisons, reconstruire les rues, des besoins au niveau alimentaire aussi, et beaucoup de traumatismes.
Oui, c'est une, je dirais, situation apocalyptique. Et ce que disait une personne, il dit, c'est comme si pour nous, c'était le dernier jour où tout était en feu. Et puis, j'ai appris hier, 600 000 enfants, aujourd'hui, Syriens et Libanais, ils sont tous traumatisés. Et donc, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte pour l'avenir.
Le Liban est toujours en attente de la formation d'un nouveau gouvernement. L'instabilité politique dans le pays a de lourdes répercussions au niveau de l'aide qui devrait être apportée à la population.
Oui, parce qu'il faut un État fort pour gérer ce genre de crise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Et la population en a marre d'avoir été spoliée. Elle est déterminée, elle veut que les choses changent, le système change. Et donc aujourd'hui, elle demande des comptes. Liban n'est pas un pays pauvre, mais elle a été rendue pauvre par la corruption, par l'intérêt personnel. Et il faut que ça change aujourd'hui. Comme disaient certaines personnes, on a été rendu pauvre. Et c'est une volonté des personnes égoïstes et aussi des puissances égoïstes à l'extérieur. Donc toutes ces questions aujourd'hui doivent être traitées avec le nouveau gouvernement.
Le Liban apparaît donc de plus en plus affaibli. Quelles pourraient être les conséquences de cet affaiblissement pour toute la région?
Écoutez, le Liban a toujours été un pays d'équilibre. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale doit craindre que la disparition du Liban ou bien la complexité dans le Liban pourra entraîner des problèmes au niveau régional. Deuxièmement, la population libanaise aujourd'hui, qui a aussi accueilli plus que 1 500 000 Syriens, aura aussi à gérer une population qui est en train de s'appauvrir. Et donc aujourd'hui, on va vers une crise humanitaire, crise sociale et aussi, je dirais, une crise morale parce que la communauté internationale est en train de regarder cela dans l'indifférence.
Le pape François a à de nombreuses reprises manifesté sa proximité au peuple libanais, notamment à travers la visite le 4 septembre dernier du cardinal Parolin. Comment la population reçoit-elle, perçoit-elle ce soutien du Saint-Père?
Partout où j'ai vu, quand j'ai parlé de Caritas, tout de suite on parle de Saint-Père et le soutien qu'il apporte à la population. Je pense que c'est un réconfort pour la population. C'est une population qui a la foi. Il dit il faut qu'il continue à nous soutenir, nous accompagner dans la prière, dans ce contexte qui est très difficile, où survivre devient un défi quotidien.
Voilà, le Liban et ses crises à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Hélène Destombes, Aloysius John, secrétaire général de Caritas Internationalis, était l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente journée.